La chronique de l'université familiale. Des sujets pour chacun, des conseils pour vivre ensemble, de l'information au cœur même de la famille. La chronique de l'université familiale. Un thème différent chaque mois, le samedi à 10h sur Style FM. Bonjour Guy Payet, je rappelle que tu es président de l'université familiale de Châtellerault et président de l'UDAF. Aujourd'hui, tu veux nous parler de l'abandon définitif de la violence éducative.
Oui, parce que les repères actuels de l'éducation se sont vraiment sédimentarisés depuis Aristote, donc ça fait déjà quelques années. Et les résultats aujourd'hui ne sont pas exceptionnels, en fait, de cette éducation. Nous avons encore beaucoup de harcèlement, des infanticides, hein, deux enfants tués tous les jours par leurs parents, par l'un de leurs parents, du harcèlement sexuel à l'égard des femmes, on en parle tous les jours à la radio, alors que la connaissance actuelle du cerveau nous apporte des éléments nouveaux qui nous permettent de réfléchir à nos modes de relations éducatives avec les enfants dans le but de les faire évoluer et de les faire grandir. Une bonne gifle, hein, ça va te calmer. Ça fait partie de l'histoire ancienne.
Que nous enseignent les chercheurs sur le cerveau ?
Essentiellement, deux connaissances. D'abord que le cerveau, on peut le considérer de façon pédagogique en trois parties. La partie la plus ancienne, hein, c'est le cerveau reptilien, le cerveau archaïque, peu importe son nom. Lui, il s'occupe du fonctionnement du cœur, du fonctionnement du poumon. Il n'y a pas besoin de le commander pour, et heureusement, pour faire fonctionner notre cœur et notre respiration. Mais il nous sert aussi à nous protéger par l'attaque ou la fuite. Hein. Par exemple, en cas de surprise, de grande frayeur, quand on vous attaque dans le dos sans vous en rendre compte, sans, en étant surpris, vous allez réagir. Soit en fuyant, soit en criant, soit en manifestant d'ailleurs, en vous manifestant d'un geste de défense. Donc c'est vraiment la partie du cerveau qui nous protège en quelque sorte. Alors, il y a une autre seconde, plus douce, c'est la partie émotionnelle, plus émotive, qui reçoit nos sentiments, les beaux sentiments, la joie, l'amour, la gaieté, mais aussi les sentiments inverse, hein, l'aigreur, la colère, tout ce qui est irritant. Ça, c'est la partie chaude du cerveau qui réagit. Un sentiment, c'est une réaction biologique, hein, donc on n'y peut rien. C'est notre cerveau qui nous le commande. Donc, c'est cette partie émotionnelle de notre cerveau qui commande tout cela. Et puis, une partie plus froide, que je vais appeler ça, une partie cognitive, elle se situe en haut du crâne, derrière le front. Ça s'appelle le cortex, qui est notre ordinateur, c'est-à-dire la partie du cerveau qui pense, qui calcule, qui organise. Hein, c'est cette partie froide, là, qui est la partie procédurière de notre cerveau. Et en fait, un beau cerveau qui fonctionne, c'est toutes les parties qui réagissent les unes en fonction des autres, mais de façon harmonieuse et non pas simplement toutes seules, quoi. Alors, chez l'enfant de 0 à 3 ans, c'est justement les cerveaux reptiliens et émotionnels qui sont les plus utilisés. Le cerveau de l'enfant est malléable, hein, ce qui veut dire qu'il n'est pas mature. Il faudra attendre longtemps, hein, pour que l'enfant grandisse, pour que la partie de son cerveau qui comprend, qui raisonne, c'est-à-dire son cortex, commence à comprendre la signification des mots, le sens des mots. Sinon, il réagit au niveau du cerveau émotionnel. Donc, il va sourire quand sa maman va lui sourire. Il va pleurer si sa maman lui fait des grimaces, si elle lui parle fort, etc. Voilà.
Si la gifle n'est plus d'actualité, Guy, comment fait-on ?
Ah bien, je te propose d'écouter Maude Alejandro. Elle est membre du Haut Conseil à l'enfance. Le Haut Conseil à l'enfance est une structure nationale qui est composée à la fois d'experts sur l'enfance, mais pas que l'enfance, la famille, les grands âges, et qui rassemble aussi des bonnes expériences de terrain. Donc c'est un bon lieu d'observation et de proposition.
On peut tous plus ou moins glisser vers cette violence éducative. Comment l'éviter ?
Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est comment est-ce qu'on perçoit l'enfant en France et repartir de ses capacités naturelles qu'il a dès la naissance, ses capacités d'empathie et relationnelles. Et revenir sur cette idée que nous ont montré les neurosciences affectives, c'est-à-dire que l'enfant a un cerveau qui est prêt pour le cerveau des émotions, prêt à la naissance également pour le cerveau archaïque qui permet de réguler la température, le rythme cardiaque. Par contre, le cerveau qui raisonne, qui permet de réguler et justement de faire face à ses émotions, il se construit jusqu'à 25 ans. La plupart, disons, autour de 5-6 ans. Donc avant, il est vraiment trop tôt pour imaginer qu'il peut nous manipuler ou raisonner. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est l'écouter, être en empathie avec lui, apaiser ses émotions, ce qui va produire une hormone qui est l'oxytocine et qui va être l'hormone du bien-être, qui va favoriser la maturation de son cerveau et qui va ensuite permettre de réguler ses émotions et être plus calme, plus attentif, plus à l'écoute.
Alors, être en empathie avec lui, ça veut dire quoi précisément ?
Ça veut dire que précisément, quand il fait une colère dans un magasin ou à la maison, ou alors qu'il a une grande angoisse, une grande peur, c'est de dire « je comprends ce que tu ressens, là pour le moment je ne peux pas te donner ce que tu demandes, mais je l'entends et je suis là, voilà ». Et en fait, l'enfant est compris, il s'apaise, il se sent aimé, compris. À l'inverse, comme on a vu dans le reportage, en fait, s'il est souvent soumis à des violences, eh bien, ça va justement le bloquer, le sidérer et produire des hormones qui vont en fait engendrer du stress et des conséquences sur sa santé, mais aussi qui vont engendrer, et ça, les parents ne le savent pas, de l'agressivité, des comportements antisociaux et une baisse de l'estime de soi. Et c'est l'inverse en fait de ce que les parents veulent donner à leurs enfants. C'est-à-dire qu'en fait, employer la violence pour changer un comportement, ça apprend à l'enfant à régler les conflits par la violence. Et c'est donc cette idée-là qu'on veut changer, faire prendre conscience du sujet en France.
Alors, quel est le pourcentage d'enfants qui sont concernés ?
Alors, en France, 85% des enfants qui sont victimes de violences éducatives ordinaires, hein, donc on parle bien de violences physiques, verbales ou psychologiques. La moitié des enfants sont frappés avant l'âge de 2 ans et les trois quarts avant 5 ans. Donc, cette information permet déjà d'évaluer l'ampleur de cette pratique.
Oui, et des dégâts. Donc comment les parents peuvent-ils avoir le déclic s'ils ne sont pas sensibilisés forcément à la psychologie de l'enfant ?
Alors tout à fait. On pourrait par exemple mener des campagnes d'information comme le fait la CAF dans le livret des parents au moment de la grossesse. C'est indiqué que les punitions corporelles et humiliations ont des conséquences néfastes sur la santé. Donc cette information, avant même d'avoir l'enfant, permet de prendre conscience du sujet. Ça pourrait être sur les briques de lait, ça pourrait être chez le médecin, une affiche chez le médecin généraliste.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui existe, hein, concrètement ?
Alors, à l'école, les châtiments corporels sont interdits. Mais dans la famille, il n'y a pas de loi. Donc il y a une loi qui a été votée fin 2016, mais qui a été retoquée pour des raisons de forme par le Conseil
constitutionnel. On parle de la France, là.
De la France, voilà. Et donc, il faut avancer sur tous les lieux où sont éduqués, ou gardés, ou soignés les enfants, former les professionnels, ça c'est vraiment très important.
Est-ce que les professionnels de la petite enfance sont bien formés aujourd'hui par rapport à cette bienveillance éducative ?
Alors, le dernier texte cadre d'accueil du jeune enfant, qui est issu du rapport Giampino, qui a été mis en place par le gouvernement, interdit désormais le recours aux pratiques violentes pour modifier le comportement de l'enfant. Parce qu'en fait, dans le sujet, ce qu'il faut comprendre, c'est comme un iceberg. Ce qui est en haut de l'iceberg, les violences visibles, c'est ce que tout le monde considère comme de la maltraitance. Ce qui est sous l'eau, c'est la violence invisible faite aux enfants. C'est ce qu'on considère comme normal pour l'éduquer. Et en fait, la ligne de démarcation change d'un pays à l'autre. À Singapour, le bâton est d'usage. En Suède, la fessée et de la maltraitance. Et
donc il faut la Suède est extrêmement en pointe dans ce domaine puisqu'elle a voté la loi en 1979, c'est bien ça ?
Voilà, c'était
vraiment le pays précurseur.
Hein. Le pays pionnier. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que 30 ans après, 86% des Suédois n'ont jamais reçu de punition, ni même une seule fessée. Et au départ, 70% des Suédois étaient contre la loi et désormais, ils sont 92% à l'approuver. Et en fait, donc, elle est culturelle, il faut se déculpabiliser. En fait, pourquoi on y a recours ? C'est qu'en fait, on a dit aux parents que ça avait des vertus éducatives, comme également on l'a reçu.
C'est ce qu'on appelle le droit de correction.
Voilà. Comme on a reçu la violence, on la reproduit. Et il y a un mécanisme psychique de déni qui dit, comme c'est ma source d'amour inconditionnel qui me fait ça, c'est que je dois être mauvais ou mon comportement est mauvais, donc on rejette la faute sur soi. Et enfin, donc, il y a une méconnaissance, en fait, du développement de l'enfant. Donc, en fait, il y a plusieurs raisons qui font que les parents y ont recours, et notamment les injonctions religieuses ou de la société, le regard de l'autre. Donc, une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, en fait, si on prend conscience du sujet, la violence va baisser, parce que le parent, au moment de modifier le comportement de son enfant, ou pour bien l'éduquer, il va changer de geste, et la violence baisse.
Alors si on veut aller un peu plus loin, l'OMS a fait le lien entre les violences subies dans l'enfance et les pathologies à l'âge adulte, mais il y a aussi un lien direct entre les violences subies dans l'enfance et la violence conjugale.
Tout à fait. En fait, la violence qu'on apprend quand on est tout petit, en fait, c'est qu'on apprend qu'on peut aimer et frapper, et être aimé et être frappé. Et dans ce cas-là, dans les relations de couple ou au travail, c'est ce qui peut éventuellement se passer. avant, donc en effet, les militaires, les ouvriers, les prisonniers et les femmes, il y avait un droit de correction sur ces personnes qui a été aboli, et il ne reste que les enfants qui sont sans défense et vulnérables. Donc c'est ça qu'on veut changer. Et dans le monde, il y a une grande évolution mondiale, donc vous l'avez cité, 52 pays actuellement, 22 pays sur les 28 de l'Union européenne qui ont déjà voté la loi d'interdiction, il en reste 5, dont la France, avec la Suisse, l'Angleterre, l'Italie. Voilà.
Il y a plus d'une centaine de pays encore à convaincre. Hein.
Voilà, mais il y en a 50 qui sont engagés à le faire. La France n'en fait pas partie. Donc, on est sur un chemin, on avance quand même en France, il y a une prise de conscience qui est faite au niveau des médias, des institutions, le défenseur des droits, la commission consultative des droits de l'homme, donc, et 350 députés et sénateurs qui avaient voté la loi.
Donc c'est un sujet qui avance. Alors on peut citer donc quelques ressources concernant cette parentalité bienveillante, hein, l'OVO, on a parlé de la CAF tout à l'heure, il y a également un nouveau métier, c'est conseiller en parentalité, il y a la PMI.
Merci beaucoup Guy, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent visionner la vidéo de Maud Alejandro en allant sur YouTube. La chronique de l'université familiale. Des sujets pour chacun, des conseils pour vivre ensemble, de l'information au cœur même de la famille. La chronique de l'université familiale. Un thème différent chaque mois, le samedi à 10h sur Style FM.